Le 20 mars, le fondateur de Radio Collège, Antoine Anton, nous quittait. Il avait été conseiller principal d'éducation au Collège d'Étré à son ouverture, jusqu'à son départ en retraite en 2002. C'était aussi donc le fondateur de Radio Collège au tout début des années 80. Durant toutes ces années, il s'est battu pour que la radio continue d'exister. C'est le cas aujourd'hui. Antoine Anton s'est exprimé très rarement au micro, préférant laisser la parole aux jeunes. Néanmoins, pour les 20 ans de la radio, il avait répondu aux questions de Stéphane Bonifay, retraçant l'histoire de Radio Collège. Je vous propose de lui rendre hommage en réécoutant cette interview, c'était en 2005.
1985, 2005, Radio Collège a 20 ans. Bon anniversaire Radio Collège.
9h02 sur Radio Collège. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et comme promis, eh bien Radio Collège fête ses 20 ans. Et à cette occasion, comme vous avez pu l'entendre sur notre antenne, eh bien la grande fête, c'est pour samedi. Mais chose promise, chose due. Nous allons passer une journée ensemble à parler de tout ce qui s'est fait sur Radio Collège depuis 20 ans. Et pour débuter bien sûr cette journée spéciale, eh bien nous sommes en compagnie de Monsieur Antoine Anton, le président de Radio Collège.
Bonjour.
Figure emblématique bien sûr de la radio, ancien conseiller principal d'éducation du Collège d'Étré et à l'origine du projet Radio Collège, c'était les années 80. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu ce projet de Radio Collège qui fête ses 20 ans aujourd'hui. En quoi consistait-il en 1980-85, on va dire?
Au Radio Collège, au départ, c'est une idée, comme je dis toujours, une idée de pédago, c'est-à-dire de gens qui ont affaire à des problèmes d'éducation et qui se disent comment lutter contre l'échec scolaire, comment lutter contre l'ennui à l'école, n'est-il pas possible d'apprendre en s'amusant, toutes ces potentialités qu'ont nos enfants et qui se délitent au cours du temps, comment faire pour les canaliser. En pédagogie, il y a très longtemps que les enseignants se posent ce type de questions. Et en fait, nous nous inscrivons dans la lignée de nos aînés, c'est-à-dire que nous ne faisons rien d'autre que ce qu'a fait Célestin Freinet lorsqu'il a introduit l'imprimerie à l'école, en se disant que pour écrire, il fallait avoir envie d'écrire, et envie d'écrire, il fallait correspondre avec les autres, donc il fallait publier un journal, et il a introduit l'imprimerie à l'école, et tout un courant pédagogique s'est inscrit là-dessus. L'enfant n'était plus un objet, c'était le sujet de sa propre éducation, il y participait en étant motivé, en créant en grandeur réelle des choses, on écrivait à quelqu'un, on attendait impatiemment la réponse, on publiait un journal qui était vendu, et donc on apprenait, non pas, je dirais, pour faire semblant, comme disent les enfants, on apprenait pour de vrai, et quand on fait pour de vrai, eh ben, on est motivé.
Alors justement, pourquoi avoir choisi la radio? Parce que la presse écrite était un outil privilégié de l'éducation nationale à cette époque-là. Pourquoi la radio?
Oh, c'est une question de contexte. Hein. On est dans les années 80 et à ce moment-là, il y a un grand courant. Ce sont les radios libres. Depuis longtemps, les radios piratent un petit peu parce que, il faut vous rappeler, hein, pour les plus anciens, et j'en fais partie, que jusqu'aux années 80, la radio était un monopole de l'État, c'était la voix de son maître. Hein, donc n'avait pas accès aux ondes de n'importe qui, et on entendait à la radio les grosses radios traditionnelles, et beaucoup de gens pensaient que la radio pouvait avoir un autre rôle, un rôle d'utilité sociale, comme on dit maintenant, de communication sociale de proximité, et que la radio pouvait être un moyen de faire communiquer les gens et de les faire participer le plus près d'eux-mêmes. Donc, on était sur ce courant-là, et au cours de nos discussions, c'est venu comme ça dans une salle des profs, hein, on discutait de ce dont je vous parlais tout à l'heure, comment faire pour motiver nos gamins. Et donc la presse écrite, bien sûr, mais les enfants ont, par rapport à l'écrit, un certain recul. On s'est dit, je ne sais plus qui a dit, et si l'on faisait de la radio? Si l'on faisait de la radio, ça nous paraissait possible, et puis on est parti là-dessus.
Alors, vous êtes parti là-dessus, mais je suppose que les débuts ont été vraiment du bricolage avant de se retrouver association en 1985.
Bon, la forme associative, on l'a pris très vite, mais c'est, effectivement, c'était du bricolage. Et puis, c'était très, à la fois très amusant et très dynamique, parce que tout était à faire, tout était à créer. Donc, il y avait vraiment un enthousiasme, un engouement, et tout le monde y a participé. Je garde de ces années-là, justement, un souvenir beaucoup plus fort que bon, ce qui s'est passé par la suite, où nous sommes devenus effectivement une radio beaucoup plus institutionnelle, avec beaucoup plus de moyens. Mais les départs étaient comme toujours, les départs étaient enthousiasmants.
Et fédérateur en plus.
Et fédérateur, oui. Il nous est arrivé de mobiliser beaucoup de monde, élèves, parents, profs, à certaines occasions. Et c'est vrai que je pense que dans l'histoire de la radio, ce sont les moments les plus forts.
Alors justement, sur ces 20 ans d'existence de Radio Collège, qu'a-t-elle changé ? Comment a-t-elle évolué cette radio ? Elle est partie d'un petit projet d'enseignant très intimiste qui diffusait quelques heures par jour à une véritable radio locale.
Oui, je dirais qu'elle elle a beaucoup évolué tout en restant fidèle à ses objectifs initiaux. Nous avons toujours gardé en tête, quels que étaient les moyens qui nous ont été accordés par la suite, l'idée initiale, c'est-à-dire que c'est une radio essentiellement et d'abord au service d'une certaine idée, à ce qu'on appelle maintenant l'éducation à la citoyenneté. Ça, nous l'avons toujours gardé en tête. La radio a évolué, effectivement, elle s'est développée, des moyens nous ont été attribués. En France, nous avons le privilège unique d'avoir une loi sur l'audiovisuel qui a voulu préserver un secteur de communication sociale, c'est-à-dire aider les radios associatives, il en existe plus de 600 en France, à pouvoir, pas lutter à armes égales, mais à pouvoir vivre face au secteur marchand. Donc cette loi sur l'audiovisuel permet aux radios associatives de disposer de crédits de fonctionnement qui nous ont donné à nous, radio en milieu scolaire, des moyens que nous n'envisagions pas à l'origine. Donc sur le plan technique, sur le plan matériel, la radio a évolué. Elle s'est installée, elle s'est, comme je disais, un petit peu institutionnalisée. Mais elle reste essentiellement fidèle à ses objectifs. Communication sociale de proximité, radio éducative.
Et c'est ce qui fait aussi sa particularité dans le paysage audiovisuel rochelais.
Oui, un peu comme si les gens ont vu l'affiche. Moi, j'ai toujours considéré que Radio Collège était une espèce d'ovni, un objet radio non identifié. C'est vrai que c'est à la fois notre force et notre faiblesse. C'est-à-dire que Radio Collège n'a pas le font depuis des années les radios, n'a pas une image, une coloration particulière. Elle se veut porteuse de tous les courants musicaux, de toutes les paroles, de tous les sons, de toutes les de tout ce qui fait, à mon sens, la diversité et la richesse d'une radio. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Les gens ont pris pour habitude, on n'écoute plus la radio comme on écoutait dans les années 60 et 70. Les gens ont pris l'habitude de radios qui sont, comme on dit, formatées. Hein, ils savent que lorsqu'ils sont sur telle fréquence, ils vont entendre tel type de coloration musicale, tel type de musique. Il y a des radios pour le rap, il y a des radios... Enfin, nous avons choisi de ne pas avoir de coloration musicale. Vous le savez, nos auditeurs le savent très bien. On peut très bien entendre de l'accordéon le samedi, on entend du jazz, on entend du rap, du hip-hop, on entend de la variété qui n'est pas la variété installée, celle des majors. C'est vrai, c'est à la fois une richesse et un handicap, mais nous avons voulu cela.
Alors, ça va être difficile, c'est une question plutôt difficile pour vous. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que vous êtes à la radio. Quelques faits marquants ?
Oui.
Il y en a, je suppose, des dizaines et des dizaines. Des souvenirs, c'est pareil, vous devez en avoir des dizaines.
Oui, effectivement, ça peut être tout simplement l'image d'un élève, d'un enfant qui est radieux à la fin de son intervention au micro, alors qu'il a énormément de difficultés à s'exprimer. Je me souviens notamment, et Stéphane, tu dois t'en souvenir comme moi, de ces enfants que l'on dit handicapés, hein, qui sont dans un milieu scolaire, dans un environnement très, très fermé, puisqu'on les met ensemble, qui ont énormément de mal à s'exprimer. À écrire, je les ai vus ici, ces gamins qui ne peuvent pas avoir 10 secondes habituellement d'attention soutenue. Je les ai vus ici avant l'enregistrement d'une émission, penchés sur leur petite phrase qu'ils devaient dire et inlassablement répéter ça. Et puis, encore une fois que c'était fait, le visage épanoui de ces gamins. Bon, c'est une image comme une autre. Bien sûr, il y a eu des faits marquants dans l'histoire de la radio. L'un des faits marquants, c'est en 1988, ce qu'on appelait le multiplex radiophonique. C'était l'organisation de rencontres nationales des radios en milieu scolaire. Nous avons accueilli ici dizaines de radios, plus de 120 enfants. Nous étions en multiplex, c'est-à-dire en liaison avec une vingtaine de radios associatives. En France et dans le monde. Et c'est vrai que ça se passait dans un contexte particulier, contexte d'ailleurs qui est toujours d'actualité, puisque nous étions à ce moment-là à plus de 1000 jours de détention de Jean-Paul, enfin des otages français au Liban, dont Jean-Paul Kaufmann. Et Joël Kaufmann, sa femme, se battaient inlassablement contre le silence. On a été replongé récemment dans ce problème. Le silence tue. Donc il faut parler. C'était pas évident à cette époque-là. On ne savait pas si parler allait nuire. Et Joël Kaufmann inlassablement disait il faut dire, il faut rappeler au gouvernement, il faut rappeler au monde entier que la liberté de la presse, que la liberté d'informer, que les otages, enfin que il faut parler. Et nous avons donc centré ce multiplex radiophonique sur la solidarité avec les otages français du Liban. Et Joël Kaufmann nous a fait l'honneur d'être là en direct. Et une émission, enfin nous avons en multiplex là également une émission d'une heure avec elle. Et je crois que si j'en parle, c'est parce que pour moi c'est symbolique de ce que doit être Radio Collège. Une radio qui participe, qui fait participer, qui invite à une réflexion sur le monde, sur la condition de chacun, sur les problèmes. Et je dois dire que nos enfants ont été à la hauteur de l'événement.
Alors justement, replongeons-nous dans cette ambiance de 1988 avec un extrait de cette fameuse émission. C'était un samedi. Nous allons écouter le début de cette émission. Avant toute chose, je voudrais dire que cette émission sera diffusée en intégralité à l'occasion de cette journée spéciale. Ce sera tout à l'heure à partir de 14h, mais pour le moment, donc un extrait de ce multiplex, c'était en 1988.
16h05 sur Radio Collège, voici l'émission que nous attendions tous depuis longtemps. Elle s'intitule « Les oubliés du Liban ». Nous sommes nombreux dans le studio ici à Radio Collège à Étré. À côté de moi, Joël Kaufmann. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
De m'accueillir surtout.
Aussi à ma droite, Monsieur Chantecaille, qui est président de l'association Francopholie, mais ça c'est notoire, qui est aussi ici surtout parce qu'il représente la Ligue des droits de l'homme.
Bonjour.
Que nous connaissons bien à Radio Collège. Ici aussi de nombreux enfants dans le studio. Et puis je vous rappelle que nous sommes en liaison multiplex, c'est-à-dire que nous sommes en liaison téléphone par le principe de la réunion téléphonique avec de nombreuses radios scolaires en France. Alors je pense que nous allons pouvoir entrer en contact avec ces radios pour présenter un petit peu ce qu'est cette émission Les Oubliés du Liban, dont le principe, je le rappelle, est de soutenir vous, Madame Kaufmann, dans tout ce que vous faites, dans toutes vos actions, à notre faible niveau, du moins que nous pouvons faire, de vous soutenir par ces poèmes qui nous ont été envoyés par des jeunes enfants, par des moins jeunes, qui ont été envoyés à toutes les radios scolaires en France. Nous en avons reçu ici, à Radio Récré, ils en ont reçu à Montauban, ils en ont reçu à Voisier, ils en ont reçu un petit peu partout. Et donc cette réunion téléphonique va nous permettre de lire tous ces poèmes et de recueillir tous ces témoignages de tous les élèves de tous les coins de France. Alors, pour des raisons techniques, nous allons d'abord faire le tour des radios et je vais les appeler une par une afin qu'elles se présentent et qu'elles présentent un petit peu la manière dont va se dérouler cette émission dans leur radio. J'appelle tout d'abord Radio Collège Villers-le-Lac.
Oui, bonjour, ici Radio Collège Villers-le-Lac, bonjour à tous. Ici, c'est un poème collectif qui a été réalisé par une classe de 6e A, qui sera lue par Ève.
Radio Récré Montauban. Apparemment, on a un petit problème avec Radio Récré. Ouais. Radio Prévert, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bonjour Radio Prévert.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'émission Les Oubliés du Liban pour ce qui vous concerne?
Bon, ben alors c'est Radio Prévert, c'est à Pont-Valin dans la Sarthe.
D'accord.
Nous émettons 24 heures sur 24 sur 91.7. Et pour l'opération Les Oubliés du Liban, eh bien les élèves, comme sans doute tous ceux des collèges de France où il y a des radios locales, ont écrit quelques poèmes.
Qui seront lus tout à l'heure.
Qui seront lus tout à l'heure, voilà.
Je vous remercie, on va tout de suite...
Oui. Est-ce que vous pourriez nous appeler?
Oui,
parce qu'apparemment, nous, ça marche pas dans le sens... On peut pas passer à l'antenne.
D'accord, nous vous appellerons, on réglera ça en antenne, ce sont des petits problèmes techniques.
D'accord, merci.
J'appelle R2E maintenant, est-ce que vous m'entendez? R2E à Ivry.
Oui, alors, que je veux dire que nous avons au moins une lettre et un poème à vous lire. Un poème qui a été écrit par Mathilde, que nous avions en direct tout à l'heure, et une lettre qui est une œuvre collective d'une classe du LEP où nous sommes implantés.
D'accord, donc vous lirez cette lettre à l'appel de votre nom, comme toutes les autres radios. Fréquence Collège du Rondeau, FCDR Rambouillet, m'entendez-vous?
Oui, bonjour. Alors ici, Fréquence Collège du Rondeau à Rambouillet, dans les Yvelines. Donc, nous émettons depuis le 27 février. Nos nouveaux locaux sont situés dans notre ancienne scolaire, qui est composée de 3000 élèves. Et pour l'instant, notre équipe se monte à 140 animateurs et techniciens âgés de 11 ans à 20 ans. Nos grilles sont très variées et nous participerons avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme à cette réunion donc de toutes les radios scolaires. Malheureusement, nous avons quelques problèmes. Nous ne pouvons pas passer ici à Rambouillet sur l'antenne, mais nous resterons présents dans cette réunion téléphonique sans aucun problème.
Merci de rester avec nous tout de même. Je vous propose de suivre le cours de cette émission. Je vous propose une première petite pause musicale que Thierry, notre technicien qui a beaucoup de travail, va nous envoyer. Et puis on se retrouve après pour justement commencer à lire tous ces poèmes qui nous ont été envoyés par de nombreux enfants. Malheureusement, nous ne pourrons pas tous les lire et nous avons été obligés de faire encore une fois, il faut le répéter, une sélection. C'est bien dommage, on aurait voulu pouvoir tous les lire, mais c'est pas possible. Donc nous lirons ceux qui nous ont le plus touchés.
Voilà, c'était Olivier Duguy à l'occasion de ce multiplex. C'était en mars 1988. Des radios en milieu scolaire, monsieur Anton, il n'y en a plus beaucoup.
Non, c'est vrai que le mouvement dans les années 85 a eu tendance à se développer. Nous avons essayé de réfléchir ensemble à ce que nous faisions. Nous avons essayé de poser les bases de quelque chose qui serait pris en compte de façon officielle dans l'éducation nationale. Bon, il faut dire que c'est un projet extrêmement lourd à mener. C'est souvent mené par ce que j'appelle des militants. C'est pas simplement des pédagogues, c'est pas simplement des enseignants. Il faut s'engager, je dirais quasiment 24 heures sur 24. Ce sont des projets très lourds. Et c'est vrai que les gens porteurs de ces projets finissent par s'user. Alors certaines de nos grandes radios ont disparu, enfin de nos grandes radios fondatrices. Hein. On entendait tout à l'heure parler de Rambouillet, Rambouillet n'existe plus. On entendait Radio Récré à Montauban, Radio Récré n'existe plus. Je pense à Radio Collège comme nous, à Vasier dans le Nord qui a dû s'arrêter. En revanche, le mouvement est toujours riche, c'est-à-dire que l'idée initiale est toujours porteuse et des radios essaient de, comme nous, de démarrer. On trouve beaucoup d'ateliers radio au milieu scolaire, c'est-à-dire des gens qui font de la radio sans émettre. Mais c'est vrai que je pense avec nostalgie à toutes ces fondateurs, ces radios fondatrices qui ont disparu.
C'est peut-être ça justement l'évolution, ces ateliers en milieu scolaire qui travaillent en collaboration avec des radios associatives déjà bien implantées.
Oui, c'est ça. Je dirais qu'il est beaucoup plus facile de monter un atelier radio. Mais je crois qu'il faut il faut quand même une radio en milieu scolaire. Radio en milieu scolaire qui fédère les projets, qui est la voix, comme on appelait une certaine époque, Radio Collège, la voix des Bahus, c'est-à-dire qui permet à ces ateliers scolaires, à leur production, de passer à l'antenne. Parce que même sur les radios associatives, en fonction de leur projet, il n'est pas facile de faire la place à des émissions d'enfants, avec toute leur richesse, mais aussi avec toutes leurs imperfections. C'est un choix. Nous pouvons, j'irais en termes de radio, perdre des auditeurs lorsque nous passons une heure, une émission avec des enfants, parce que c'est pas forcément ce que les auditeurs attendent. Donc je crois qu'il faut quand même une radio au milieu scolaire, sur la cité, sur l'agglomération, sur le département, et cette radio scolaire est fédératrice de tous les projets d'ateliers radio.
Alors, on a parlé du multiplex il y a quelques instants. D'autres faits marquants dans ces 20 ans de Radio Collège, des personnes emblématiques qui ont participé à la vie de la radio?
Oh, il y en a eu régulièrement, je ne pourrais pas toutes les citer. Je pense que Radio Collège, par exemple, a accueilli tous les grands navigateurs, solitaires ou en équipage. Radio Collège a suivi très tôt et de façon quasiment professionnelle ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pense à la grande aventure de la Transat, la première Transat, avec l'aventure de Charles-Maritime. Donc on a eu ici pratiquement tous les grands noms de la navigation.
Qui sont maintenant connus comme Jean-François Fontaine,
oui,
Philippe
bien sûr,
Poupon.
Et d'autres qui le sont moins, mais qui étaient des figures également emblématiques. Oui, Poupon est passé, Fontaine est passé, Charpaille, qu'on ne connaît pas, mais qui a participé à toute l'aventure du Charente-Maritime, qui a été une grande et belle aventure. Bon, ce sont des personnes qui sont passées à Radio Collège. Je pense avec amusement à Michel Crépeau, par exemple, parce que bon, Michel Crépeau, tout le monde ici le connaît, mais Michel Crépeau à Radio Collège, c'était par exemple la recette du pot-au-feu de cagouille.
Ça, ah bon, on l'a gardé, on le
disera. J'espère qu'on aura le plaisir de le réentendre.
C'est à midi lors du déjeuner, la recette des escargots très par bien. Michel Crépeau.
Alors tout ça au fond, nous, parce que ça vaut le déplacement, et puis c'est pas le Michel Crépeau qu'on a l'habitude d'entendre, c'est pas le Michel Crépeau qui passe sur les antennes traditionnelles ou son discours, ce qu'on entend de lui, c'est pas ça. Nous, par exemple, quand nous recevons quelqu'un, ce qui nous intéresse, c'est au-delà de la personne publique, c'est justement ce rapport à l'humain, au quotidien. Et bon, Michel Crépeau, autre chose, bon, je vais essayer de faire court parce qu'il y en aurait trop. Henri Alleg, pour les plus anciens d'entre nous, ça dit quelque chose. Henri Alleg est un monsieur qui, au moment de la guerre d'Algérie, a été arrêté par ses convictions, a été torturé, et au sortir de sa prison, il a écrit un brûlot à cette époque-là. Encore une fois, il faut se rappeler que toute l'information, tout ce qui était publication était fortement censuré. Il a écrit un brûlot qui s'appelait La Question et qui dénonçait publiquement pour la première fois les tortures commises par l'armée française en Algérie. Nous avons eu l'immense honneur de recevoir Henri Alleg non seulement nous avons eu cet immense honneur, mais ce qui justifie le travail, c'est que des lycéens qui ont ça à leur programme d'histoire et qui voient la guerre d'Algérie un petit peu de façon sommaire, avaient travaillé sur la question, c'est le cas de le dire, et ont pu effectivement mieux prendre la dimension de ce qu'a été le problème algérien avec toutes ses implications et toutes ses atrocités.
Alors effectivement, on ne va pas faire le tour, Antoine Decaune, Isabelle Autissier, enfin des noms extrêmement connus sont passés à Radio Collège.
Tu dis Antoine Decaune, il ne faudrait pas oublier Georges Decaune, le papa qui était aussi une figure rochelaise emblématique.
Et toutes ces personnes-là, eh bien, vous les retrouverez pendant toute cette journée spéciale sur Radio Collège jusqu'à 20h. Samedi 23 juillet, c'est une date importante où là, nous ne serons plus à l'antenne, mais enfin, Radio Collège sera toujours là, mais nous serons à la salle Georges Brassens.
Oui, faire la fête. Faire la fête, j'espère que tous nos auditeurs, ceux qui sont là et qui nous accompagnent depuis 20 ans comme les plus jeunes, viendront participer parce que Radio Collège, c'est aussi une certaine idée, c'est de la convivialité, enfin c'est comme ça que nous l'envisageons. J'attends de cette journée que tous ceux qui ont participé à l'aventure, mais tous ceux également qui sont les auditeurs, viennent faire la fête avec nous.
Et ce sera donc samedi prochain à partir de 14h.
À partir de 14h, à la salle Georges Brassens à Étré, on essaiera de s'amuser dans l'esprit de Radio Collège.
Quelques mots sur l'avenir de Radio Collège ? Encore 20 ans ?
Oui, pourquoi pas, encore 20 ans, mais sans moi. Il y a beaucoup de raisons à ça, notamment des raisons d'âge. Donc j'espère bien que Radio Collège évoluera et continuera d'évoluer et aura encore des projets et saura trouver de nouvelles idées, tout en restant fidèle, encore une fois, à ses objectifs, sans les oublier, sans s'asseoir dessus. 20 ans encore, pourquoi pas. Ça se fera sans moi et j'en serai très heureux.
Et vous aurez quand même un petit œil derrière.
Une petite oreille. Une oreille toujours attentive et toujours, je dirais, à la fois très critique. Hein. Vous savez que je peux être très critique. Mais très aussi, très. Comment dirais-je, très, très amicale, très attentive, très affective.
Monsieur Anton, merci beaucoup, président de Radio Collège. Enfin, on vous remercie, parce que si vous n'aviez pas été là il y a 20 ans, ben, nous, on ne serait pas au micro aujourd'hui.
Oh, d'autres, pourquoi pas, d'autres auraient sans doute eu l'idée, ça s'est fait ailleurs. Bon, c'est vrai que j'y ai participé, mais je n'ai pas été seul, heureusement.
1985, 2005, Radio Collège a 20 ans. Bon anniversaire, Radio Collège.
C'était un hommage à Anton Anton, fondateur de Radio Collège, qui nous a quittés le 20 mars dernier. Cette émission est réécoutable sur le site de Radio Collège, www.radiocollège.fr. Le nom d'Antoine Anton restera à jamais lié à Radio Collège. Toute l'équipe se joint à moi pour présenter ses condoléances à toute sa famille.